OK, on commence notre 116e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Nous allons voir ce soir la doctrine de la paix et la tranquillité d'esprit. Alors, on le répète à chaque leçon, mais c'est important de le comprendre, que l'adoration comporte deux facettes, l'intérieur et l'extérieur, et on est en train encore d'étudier les différentes doctrines qui composent l'adoration intérieure. On voit qu'il y a beaucoup de facettes. On avait vu que la piété, c'était comme la base de l'adoration intérieure et qu'on pouvait la comparer à un arbre qui comportait de multiples branches. Jusqu'ici, on a étudié 8 branches de cet arbre qu'est la piété. On continue donc notre étude en examinant 9e branche de l'arbre de la piété, qui est la paix et la tranquillité d'esprit. Si on va dans Galates chapitre 5 sur le fruit de l'esprit, la paix arrive en 3e, après l'amour et après la joie. Ça nous dit, Galates 5, versets 22-23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Donc, elle arrive à la 3e. Donc, ça montre quand même son degré d'importance, la 3e après la joie. Donc ici, bien entendu, on ne parle pas de la paix d'un pays à l'intérieur d'un pays, on parle de la paix intérieure, la paix de l'âme. On pourrait la définir comme l'aisance de l'esprit de toute détresse provenant du péché ou qui proviendrait de l'attente de la colère de Dieu. Donc c'est la libération de l'esprit de la détresse qui provient du péché ou d'un sens de l'attente de la colère de Dieu. Alors le premier point qu'on va regarder, c'est ce qu'est la paix. Alors, comme on vient de le voir, c'est l'absence de détresse provenant du péché. On sait, d'après les Écritures, que la loi ou le décalogue révèle le péché et révèle aussi qu'il est condamné. Romains 7, versets 7 à 13. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se produit pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort, pour ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, les Écritures nous parlent que la loi ou le décalogue, ça révèle le péché, et ça révèle aussi que tous les êtres humains, sans exception, sont condamnés à cause de nos péchés, qui est révélé par la loi. Donc, quand on dit que la paix, c'est l'absence de détresse provenant du péché, peu importe le péché qu'une personne commet, ça l'entraîne toujours, inévitablement, son cortège de tristesse, de lourdeur et de fardeau. Il n'y a pas une personne, je pense, sur la terre qui n'a pas connu ce que c'était que d'être triste à cause d'un péché, qui n'a pas connu ce que c'est que d'être lourd, la lourdeur et le fardeau qu'impose le péché. Quand quelqu'un vit dans le péché, surtout pour un chrétien, à quelque part, il finit par ressentir une grande tristesse à cause de son péché ou de la lourdeur ou un fardeau. On lit dans le psaume 38, versets 2 à 10, « Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités m'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Alors le texte nous parle de fardeau, les péchés nous parlent aussi de quelque chose de pesant. « Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair, je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Quand on regarde l'ensemble des mots qui sont utilisés dans ce psaume-là, qui parle du péché, c'est absolument effrayant. Là. Mm-hmm. Elle parle de brisé, tristesse, gémissement, soupir, cœur agité, lourd fardeau, pesanteur. Alors, la conscience provoque de l'anxiété, du trouble, de la douleur et de la terreur. Quand on lit, par exemple, dans le psaume 88, versets 7 à 9 et versets 13 à 17. 7 à 9, « Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé, je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. » Alors, on voit encore ici, il parle d'accablement, il parle de souffrance, et c'est toutes des choses qui sont reliées au péché. Versets 13 à 17, « Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent tout à la fois. » Alors, c'est sûr, on peut prendre le passage s'adressant à des inconvertis. Peu importe quelqu'un qui vit dans le péché de façon constante, ces choses-là finissent toujours par se faire connaître à leur âme. Mais aussi, un chrétien qui tombe dans le péché finit par ressentir aussi ces choses-là. On sait que David, quand il est tombé dans le péché, jusqu'à quel point il était brisé à cause de son péché, il était vraiment dérangé, pas à peu près. Alors, une fois convaincu de péché par le Saint-Esprit, la conscience cherche désespérément un allègement lors de la conversion. Alors, si on prend le passage du livre des Actes, du geôlier, on sait que le geôlier a vu les prisonniers qui pouvaient s'évader, et il était vraiment, sa conscience cherchait une réponse à son problème. On lit dans Actes 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voyez-vous, non seulement il avait peur des réactions des autorités romaines, parce qu'à cette époque-là, si tu étais directeur d'une prison, il y avait des personnes qui s'évadaient, c'était automatiquement la mort. Alors, quand il a vu que les liens étaient brisés, que la prison était ouverte, il s'est dit, ça y est, il allait se tuer par lui-même. Et là, Paul est intervenu et il lui a expliqué le salut. Alors, on voit que sa conscience a été apaisée. On parle de la paix de la conscience. Sa conscience a été apaisée quand il a su, quand on lui a annoncé l'Évangile. On a parlé donc de l'absence de détresse provenant du péché. On l'obtient uniquement quand on est sauvé. L'autre, c'est aussi la liberté de détresse due à l'entente du jugement de Dieu. On entend souvent des personnes dire qu'ils ont peur de la mort. Pourquoi ils ont peur de la mort? Parce qu'inconsciemment ou consciemment, ils savent qu'ils attendent, un jugement de Dieu les attend. Alors, la détresse qui est due à l'attente du jugement de Dieu, je me souviens d'avoir lu Azael Nettleton, qui était une personne qui a prêché aux États-Unis dans les grands réveils des années 1900, fin des années 1800. Et il a raconté souvent que quand il annonçait l'Évangile, il y a des personnes qui étaient, leur conscience était comme terrorisée. Et parfois, l'état de terreur demeurait une journée, deux journées, trois journées. Et parfois, ça durait des mois. Et lui, il essayait toujours d'amener la personne. Parce que ce qui arrive dans ce temps-là, quand la personne est conscientisée par le Saint-Esprit de son état de perdition, de la gravité de ses péchés et du fait qu'il s'en va en enfer, là, toute son attention est centrée sur lui, son péché. Il pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était toujours de les emmener à la croix, de leur faire voir que Jésus... Et il disait, là, il racontait dans son livre que ceux qui avaient un degré de conviction de cette profondeur-là, que ça avait duré deux semaines, trois semaines, un mois, là, c'était terrible. Là. Il ne dormait pas, il était terrorisé. Mais quand il finissait par l'amener à la croix et lui faire comprendre que Christ avait payé pour ses péchés, c'était vraiment là, la paix qui arrivait dans son âme, la paix de la conscience. Alors, c'est vraiment extraordinaire que nous, comme chrétiens, on est libérés de cette détresse-là qui est due à l'attente du jugement de Dieu. Donc, on n'a pas peur de la mort. Les pécheurs élus sont conduits vers le sang de Christ. Ésaïe 53, verset 5, on parle de Christ dans le contexte, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, ça parle du châtiment. C'est le châtiment de Christ qui nous donne la paix à nous. Les pécheurs élus sont conduits à la justice de Christ qui est pure, parfaite et sans tache. Alors, on sait que la justice de Christ, c'est le fait que quand il est venu sur la terre, il a obéi à la perfection, au décalogue, à tous les commandements de Dieu et même à la justice cérémonielle et civile parce que c'était nécessaire pour les Juifs. Il a obéi à tout ça, à la perfection, et ça l'est mis sur notre compte. Donc, les pécheurs, non seulement sont libérés de l'attente du jugement, mais sont convaincus aussi par l'Esprit que Dieu, Jésus, quand il est venu, il a accompli à la perfection la loi à notre place. Alors, Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ésaïe 32, versets 17 et 18. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquille. Les pécheurs élus sont conduits vers les vérités de l'Évangile. Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Donc, automatiquement, quand on annonce l'Évangile, on annonce la paix possible si Dieu leur a fait la grâce. Les pécheurs élus sont conduits vers l'alliance de grâce avec toutes ses bénédictions et toutes ses promesses. 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. N'est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Alors, on voit que le contexte parle vraiment de la sécurité du croyant qui va, Seigneur te prend d'un point et il t'amène à l'autre bout. Quand ça dit, une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant une pleine sécurité. Il dit, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? C'est Dieu qui fait germer tout ton salut. Éphésiens 2, versets 11 à 18. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors juste dans le passage, je pense que le mot paix est dit 4 fois. Alors c'est quand même intéressant de voir que l'Évangile est toujours relié à la promesse de paix. Alors, les élus, pécheurs élus, sont conduits dans l'amour de Dieu aussi. Ça nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Deuxième point qu'on va regarder, qui sont les sujets de la paix? Alors, bien entendu, de la façon habituelle de Gill, il recommence par regarder ceux à qui ça ne s'adresse pas négativement. Donc, ce sont les hommes méchants et les hommes qui ne sont pas élus. Alors, pour eux, il n'y a pas de paix. Ésaïe 57, versets 20 à 21. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Alors, ça, c'est clair. Hein? Les Écritures nous disent que pour les inconvertis, même s'ils peuvent se donner des airs d'avoir la paix par toutes sortes de techniques, là, de méditation, etc., la véritable paix de l'âme, ils ne l'ont pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui le dit. Il n'y a point de paix pour les méchants. Et dans les Écritures, un méchant, c'est tout simplement un inconverti. Les hommes aussi qui s'auto-justifient. Donc, il n'y a pas de paix pour les hommes qui disent qu'ils obtiennent le salut par leurs propres œuvres. Ésaïe 59, versets 7 et 8. « Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Alors, c'est vraiment clair. Les Écritures nous disent que ça ne se peut pas qu'un homme qui cherche à gagner le ciel par ses propres œuvres, il ne connaît pas la paix véritable que nous donne l'Évangile. Maintenant, on a vu à qui ça ne s'adressait pas. On va regarder maintenant à qui ça s'adresse positivement. Seulement les pécheurs justifiés et pardonnés. Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, on voit ici très bien que c'est uniquement les croyants qui peuvent avoir la paix avec Dieu, et on sait par qui, à cause de Jésus-Christ. Alors, seulement les croyants en Christ, Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Aux croyants spirituels, Romains 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc, la paix est aussi donnée à ceux qui aiment la loi de Dieu, à ceux qui aiment ses doctrines, ses ordonnances, ses voies et son adoration. On lit dans le psaume 119, verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. » Quand même intéressant de noter ici que les Écritures, Dieu nous dit que pour ceux qui aiment la Bible, il va y avoir beaucoup de paix, il ne leur arrive aucun malheur. Il faut expliquer un petit peu ce qu'on entend par « aucun malheur ». Dieu, la Providence nous dit que Dieu mène nos événements. Et pas un malheur dans le sens spirituel du mot. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de souffrance, qu'ils n'auront pas d'affliction, qu'ils n'auront pas de... Mais ça dit qu'il ne t'arrivera pas de malheur dans le sens spirituel du mot, dans le sens que tu pourrais t'écarter ou perdre ton salut ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour le peuple et les enfants de Dieu que cette paix est réservée. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Bien sûr, comme dans le psaume 119, 105, quand on arrive sur un passage comme ça, c'est sûr qu'on peut se dire, « Ouais, ça n'a aucun malheur. Malheureux, aucun malheur. » Il faut toujours se questionner, puis pas dire, « Ben voyons donc, on nous arrive un malheur. » Autrement dit, on est en train de contredire Dieu. Il faut essayer de savoir qu'est-ce que le texte peut vouloir dire en dehors de que toi, il t'arrive quelque chose, tu considères ça comme un malheur. Alors, il faut expliquer le verset, parce que sans ça, on a l'air à vouloir dire qu'on sait mieux que lui qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Ésaïe 54, verset 13 à 17. « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Maintenant, où ça se trouve la paix en nous? C'est bien sûr l'esprit, le cœur et les pensées. Colossiens, chapitre 3, verset 15. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Philippiens 4, 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est quand même pas des petits mots que les Écritures utilisent, que Dieu nous dit. Il nous dit « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». Ça veut dire que peu importe ce qu'on peut comprendre, nos concepts peuvent s'élever jusqu'à un certain point, mais il nous dit que ça dépasse ça. Ça dépasse toute intelligence. Maintenant, qui est l'auteur? Bien, ça, je pense que c'est pas trop difficile à deviner. L'auteur et les causes de la paix, la cause efficiente, c'est l'Éternel lui-même. Hébreux 13, versets 20 et 21. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, la cause efficiente, c'est sûr que c'est Dieu qui procure la paix à nos âmes. La cause initiale, Luc 2, versets 13 et 14. « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Alors, on voit que le contexte nous parle de la naissance de Jésus. Il nous dit que l'arrivée du Messie va amener la paix dans les cœurs des hommes. Maintenant, quels sont les instruments par lesquels le Seigneur va utiliser pour amener la paix dans les cœurs? Deux moyens, la parole de Dieu, bien entendu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, la parole de Dieu est un instrument utilisé par le Seigneur pour amener la paix dans le cœur des hommes, mais aussi les ministres de Dieu que les Écritures utilisent, que Dieu utilise pour aider à amener la paix dans l'âme des hommes. Éphésiens, chapitre 15, verset 11 à 15, chapitre 4, veut dire, Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 15. Et ici, le Seigneur nous dit que comment il construit son Église et il a donné les uns. Il parle de dons d'hommes. Ailleurs, il nous parle des dons de l'Esprit qui sont des dons, mais que ce n'est pas des hommes. Ici, le Seigneur, il dit que à son Église, il a donné des hommes avec des fonctions particulières. Il nous dit, il nous a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, c'est à remarquer qu'à l'intérieur de la liste du don d'homme que le Seigneur donne à son Église, il y a pasteur et docteur. Alors, pasteur et docteur, docteur, ça a le plus le sens d'enseignant. Alors, le Seigneur, il dit qu'il se sert de ses enseignants pour édifier son Église, mais dans le but de les emmener à l'action. C'est ça que ça dit, là. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, donc construit le corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et là, ça dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, donc les pasteurs et docteurs participent à la croissance des enfants de Dieu. Il dit, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et si on irait regarder le contexte, il ne fait pas juste nous édifier pour le but de nous édifier pour nous emmener à servir, toujours dans le but de nous emmener à faire quelque chose pour lui. Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, quand on prêche ou quand on évangélise, on est les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, de ceux qui disent ici, qui annoncent de bonnes nouvelles. Quatrième chose qu'on va regarder concernant la paix, c'est sa nature et ses propriétés. Donc, la première chose à réaliser, c'est que c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Donc, c'est le Seigneur, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. C'est aussi, bien sûr, une bénédiction. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Donc, c'est un cadeau de Dieu, c'est une bénédiction, et c'est aussi quelque chose qui est, la paix de Dieu est grande. Donc, si on avait ajouté un qualificatif à la paix de Dieu, dans le psaume 119, verset 165, on a lu tantôt, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Alors, si on veut avoir beaucoup de paix dans nos vies, plongeons dans les Écritures. C'est ce que la Bible nous dit. Si on aime sa loi, on va avoir une grande paix. Elle est aussi, autre qualificatif que les Écritures leur donnent, c'est qu'elle est parfaite. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Autre caractéristique, on l'a vu un petit peu tantôt, elle surpasse toute intelligence. C'est un peu particulier de penser qu'il y a des choses que le Seigneur nous donne qui dépassent notre capacité de compréhension. Mmh. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dernière caractéristique, non pas la moindre, elle ne peut être anéantie ou complètement enlevée. Donc, comment que le malin, le monde entier se mettra contre nous pour nous enlever la paix? Ça pourrait arriver qu'il la réduise, mais il ne peut pas complètement l'enlever, ni l'anéantir. Job 34, verset 9. Et ici, dans le contexte, ça parle de Dieu. « S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal, soit une nation, soit un homme. » Alors, c'est sûr que quand l'Éternel donne le repos, ça dit « qui répandra le trouble. » Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir d'une brève étude sur la paix et la tranquillité d'esprit? Je dirais la première, c'est très certainement de remercier le Seigneur pour cet immense et merveilleux cadeau qu'est la paix et la tranquillité d'esprit. On le sait bien souvent, une des premières caractéristiques qu'on ressent après qu'on est sauvé, dans les premiers moments, là, c'est la paix de l'esprit. La plupart des gens qui vont témoigner de leur salut, c'est la première chose qui leur vient à l'esprit. Je chantais la paix, quelque chose dans mon cœur, que j'avais plus de la peur de la condamnation. Et la deuxième application, louons le Seigneur pour la jouissance permanente de cette paix divine et solide. Donc, on n'a pas cette paix-là, on peut la connaître sur terre, elle peut croître, mais on va continuer de la connaître même dans l'éternité. Que son Saint-Nom soit glorifié et exalté.